Je ne sais pas si vous avez relevé l'élément d'espérance vis-à-vis du dessein de Dieu, vis-à-vis du projet de Dieu dans cette parabole. Le refus des invités a été l'occasion d'une invitation plus large encore. Il y avait un certain nombre d'invités qui avaient été prévus, et suite à leur refus, le roi a élargi son invitation. Ce sont désormais toutes les personnes sur les chemins qui sont invitées. Finalement, le roi a transformé le refus en une invitation plus large encore, et la salle est plus remplie qu'elle ne l'aurait été au départ. C'est vraiment un élément d'espérance à noter. Le dessein de Dieu trace son chemin, le salut de Dieu trouve son chemin malgré les obstacles réels. Et il est bon, j'allais dire de temps en temps, le dimanche, de nous souvenir de ça. Le projet de Dieu réussira. Parce que lorsque on lit le journal, lorsqu'on voit les informations, il nous arrive d'en douter. Il nous arrive de nous dire, mais le monde va à sa perte. Les lois qui sont votées, les rapports entre la société, on a l'impression d'une dégradation, il y a parfois des éléments de violence réels qui sont présents. Mais on demande, mais l'annonce de cette bonne nouvelle, est-ce que ça va dans le mur simplement? Le projet de Dieu va-t-il échouer? Et l'on nous annonce, le projet de Dieu réussira. Car Dieu a cette capacité de tracer son chemin malgré les obstacles. Dieu a cette capacité de saisir les résistances pour ouvrir un nouveau chemin de salut. Je prendrai une image, alors qui est une image désagréable pour ceux qui l'ont vécu. Si vous avez eu un dégât des eaux, vous savez que l'eau trouve toujours son chemin. Voilà, c'est parfois extrêmement détourné, parce que la fuite venait d'ici, et c'est telle pièce de l'autre côté de la maison qui se retrouve remplie d'eau, mais l'eau trouve toujours son chemin. Eh bien, cette parabole, en nous montrant justement comment l'invitation va être plus large encore que ce qu'on avait imaginé, nous manifeste que le salut de Dieu trouve toujours son chemin. On pourrait dire comme l'eau de la grâce trouvera toujours son chemin. L'invitation est élargie à tous. Et le texte souligne bons et mauvais. C'est très étonnant, ça. L'invitation est donnée à tous, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Ça veut dire que l'invitation leur est faite sans mérite préalable de leur part. On n'a pas dit, si vous êtes plus grand que 1m75, vous êtes invité, sinon ça marche pas. Ou bien, si vous avez déjà votre baccalauréat, vous êtes invité, sinon ça marche pas. Ou bien, si vous êtes un athlète, c'est bon, sinon c'est pas pour vous. Tous sont conviés et peuvent répondre à cet appel et peuvent répondre à cette invitation. Et donc là encore, il y a une question que nous sommes appelés à nous poser. Est-ce que je crois que je suis invité par le Seigneur au salut et au ciel? Est-ce que je crois que je suis invité à être saint? Et on peut poser la question aux servants d'hôtel qui sont là. Croyez-vous que vous êtes appelés à être saint? On peut poser la question à Mario, on peut poser la question aux servantes de l'Assemblée, on peut poser la question à Cynthia. Crois-tu que tu es appelé par le Seigneur à être sainte? Tu es vraiment appelé? Cynthia me fait signe de la tête, oui, elle a raison. Et cette question, posons-la nous, parce que c'est une chose qui sort parfois de notre univers. Je ne sais plus que je suis appelé par le Seigneur. Je n'ai pas pris conscience que je suis appelé par le Seigneur. J'imagine que c'est pour d'autres, des plus grands, des meilleurs que moi. L'invitation est faite aujourd'hui aux bons et aux mauvais. Tous sont conviés. Cependant, nous voyons dans la parabole que s'il n'y a pas de condition préalable pour recevoir l'appel, il y en a une pour demeurer dans la salle des noces. Voilà, c'est ce fameux vêtement des noces. L'homme qui n'en a pas est jeté dehors. Alors quand on lit la parabole pour la première fois, on peut être un peu gêné par ça, on se dit « mais ça me semble injuste, On est allé prendre un type qui était sur le chemin, on l'a ramassé en chemin, ben, il n'avait peut-être pas de vêtements de noces dans son sac, puisqu'il ne savait pas qu'il allait être invité. Alors lui reprocher de ne pas avoir de vêtements de noces, c'est un peu rude, non ? En fait, il y a une chose à savoir, c'est que dans l'Antiquité, quand un roi invitait, le roi fournissait le vêtement de noces à ceux qui n'avaient pas les moyens d'en apporter un. Donc les personnes les plus riches avaient leurs propres vêtements qu'elles emportaient avec elles, mais ceux qui n'avaient pas le vêtement adéquat recevaient à l'entrée le vêtement des noces. Et du coup, on comprend alors mieux l'étonnement du roi en voyant cet homme dans la salle ne pas porter de vêtements, puisqu'il en fournit. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de vêtements de noces ? Et la question du roi n'est pas agressive. Il l'appelle mon ami, on aurait pu imaginer, sinon le roi voyant quelqu'un sans vêtements de noces se mettre à crier, garde, saisissez-le, jetez-le dehors. C'est pas comme ça que ça se passe. Mon ami, pourquoi est-ce que tu n'as pas de vêtements ? Il y avait la place, peut-être, si jamais, ben, il n'y en avait plus quand je suis arrivé, ou bien moi je suis entré par la porte de derrière et du coup j'ai pas rencontré de gens qui m'en ont proposé. Mais l'homme se tait. L'homme ne répond pas. Il y a un silence qui est terrible. Il y a un silence qui est terrible parce qu'il évoque soit l'indifférence des premiers invités qui disent « Ben non, mais ton invitation, garde-la pour toi, moi je vais à mon champ, moi je vais à mon commerce, ça m'intéresse pas. » Ou alors même l'agressivité, mais une agressivité, on pourrait dire comme quand la haine devient très forte, elle se transforme en indifférence. Tu n'existes pas pour moi, tu n'existes plus pour moi. Alors tes paroles qui me sont adressées, elles se perdent dans le vent. C'est un silence terrible, alors que le roi invitait à un dialogue. Le roi fournissait le vêtement, le roi donnait la possibilité d'un dialogue, d'une explication. Il y a un silence qui ne donne aucun avenir. Eh bien, puisque la langue de cet homme est liée, il ne dit rien, ça va se manifester, ça va s'illustrer par sa vie. Prenez-le, jetez-le dehors, liez-lui les mains et les pieds comme sa langue est liée. Il aura ce qu'il veut. Mais alors, donc, s'il faut avoir ce vêtement de noces, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le vêtement de noces ? À quoi ça correspond ? Est-ce que c'est juste, il y a une boutique où on peut acheter ça ? Il y a plusieurs tailles, je vais trouver ma taille. C'est quoi ce vêtement de noces dont il est question ? Ça, c'est un autre livre de l'Écriture qui va nous donner des indices. C'est le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit ceci, le voyant à cette vision, « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle, on lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. » Alors on voit dans l'Apocalypse, il a la vision d'un festin de noces où les invités ont revêtu un vêtement blanc, d'une blancheur éclatante, et un peu plus loin, on nous dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que c'est ? Ce vêtement, ce sont nos vies lavées dans le sang de l'agneau. Nos vies saisies par le sacrifice du Christ sur la croix. C'est lui l'agneau de Dieu. Ce vêtement, ce sont nos vies saisies par la mort et la résurrection de Jésus. Cela signifie que nous venons déposer nos vies, nos activités, notre travail devant le Christ pour lui demander de le purifier, de l'élever, de le sanctifier, que nous venons présenter notre travail, nos activités et notre vie pour que tout cela reçoive de lui la blancheur céleste. Et cet acte d'offrande, il faut comprendre que c'est d'abord un acte de relecture, et c'est un effort de relecture. C'est toujours difficile de relire notre vie. On est souvent pris dans le mouvement de jour après jour, on répète les choses, mais on ne s'arrête pas pour nous dire, mais finalement, là, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que ce que j'ai fait avait du sens? Et vous savez, si on peut citer les paroles de sainte Thérèse de Lisieux, on peut faire de l'épluchage des pommes de terre un acte d'amour, parce que ça semble tout simple, mais voilà que je le fais pour le bien, pour la joie, pour la vie de ceux dont j'ai la charge. Comment est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait juste mécaniquement pour me débarrasser d'une tâche, ou bien je l'ai fait justement pour en faire un acte d'amour. Les gens avec qui je me trouvais, comment est-ce que je les ai regardés? Est-ce que ça a été un lieu d'humanisation? Nous nous sommes reconnus comme des êtres humains. Ou bien on s'est traités comme des machines-outils. J'attends de toi simplement un produit de ton travail, mais ne me dis rien sur toi, ta personne ne m'intéresse pas. Est-ce que mes paroles ont construit la communion, ou est-ce que mes paroles ont blessé la communion? Relire aussi pour savoir s'émerveiller de ce qui a été beau, de ce qui a été bon. Surtout, j'allais dire, lorsque nos journées ont été terribles. Il y a parfois les journées où c'est-à-dire, mais c'est la journée de la mort, c'est la journée de l'enfer, ça. C'est les ténèbres. Quelle est la petite étincelle, la petite étoile que je vois briller? Il est bon, il est important de la relever parce que ce sera cette étoile qui me guidera aujourd'hui, dans ce jour de ténèbres. Il y a un effort de relecture pour offrir ma vie. Seigneur, ben voilà, je t'offre ma journée, peut-être belle en ceci, mais peut-être très pauvre, peut-être très dure en cela. Je te l'offre pour que tu viennes la toucher. Un effort de relecture. Un acte d'humilité aussi, parce que nous nous rendons compte qu'il y a toujours une distance entre ce que je rêverais et ce qui est effectivement en place. C'est d'ailleurs parfois l'une des raisons pour laquelle on n'aime pas trop relire, parce que on se dit que ce qu'on va voir ne sera pas parfait. Il y a une voix de notre orgueil qui nous dit cela. Si ce n'est pas parfait, ça n'a pas lieu d'être. Si tu n'es pas parfait, tu n'as pas de place avec nous. Ça, c'est vraiment notre orgueil qui parle. Dieu nous dit, mais viens, viens, viens avec ce que tu es, tel que tu es. Car tu n'es pas seul sur ce chemin, je suis avec toi. Tu ne viens pas simplement apporter ce que tu produis, tu viens l'offrir dans ma grâce. Et j'allais dire, souvenons-nous de la logique eucharistique, de la logique de l'offrande. Le pauvre pain, le pauvre vin que les servantes de l'assemblée apporteront tout à l'heure va devenir le corps et le sang de Jésus, vie divine. Alors c'est vrai, si ce n'est pas saisi par l'Esprit Saint, il ne se passe rien. Le pain et le vin, par nature, ne sont pas la vie de Dieu. Mais voilà que l'Esprit peut le saisir. Et en même temps, voyez qu'il n'y a pas d'Eucharistie si on n'apporte pas du pain et du vin. L'Esprit Saint peut être là, mais on ne lui donne pas la matière à transformer pour que la vie divine nous soit partagée. Et l'offrande du pain et du vin, c'est l'offrande justement, le signe de l'offrande de notre travail et de toute notre vie. Alors dans l'Antiquité, on ajoutait un signe souvent pour les orphelins. Parce que les orphelins, ils n'ont rien. Alors ils disent, mais je ne travaille pas encore, je suis tout petit, je ne possède rien, est-ce que je peux m'offrir? Et on leur donnait, c'était eux qui apportaient l'eau. Parce que ça, ils pouvaient en trouver de l'eau. Et c'était pour manifester que toute vie peut s'offrir. Apparemment, j'ai rien. Si, tu as ta vie, et ta vie, elle peut être offerte et elle est saisie par l'œuvre du Christ. Elle sera transformée par l'Esprit Saint. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour, laissons-nous enseigner par la Vierge Marie qui a fait le don d'elle-même à la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a offert sa vie, son abaissement, sa petitesse, et Dieu fit pour elle des merveilles, comme il veut faire pour nous des merveilles. Alors en ce jour, pour revêtir ce vêtement de noces, offrons-lui nos vies, offrons au Seigneur notre travail, offrons-nous au Seigneur pour recevoir de lui ce vêtement de noces. nos vies saisies par l'Esprit Saint, nos vies blanchies par le sang de l'agneau. Sainte Vierge Marie, ô Notre-Dame du Travail, à qui nous sommes plus particulièrement confiés en cette paroisse, apprenez-nous à offrir et à nous offrir. Soyez avec nous en cette prière pour que votre cœur compense ce qui manque dans notre cœur de foi et d'espérance. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi, guidés par la Vierge Marie. Nous nous émerveillons de ce que tu nous appelles tous, sans mérite préalable de notre part. Donne-nous le vêtement de noces pour demeurer au banquet des noces de ton Fils dans le royaume des cieux. Voici notre travail, voici nos occupations, voici nos vies. Sous la garde et la conduite de Notre-Dame du Travail, nous te les offrons. Par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elle soit blanchie par le sang de l'agneau, Jésus, pour devenir digne de toi et porter un fruit de vie dès cette terre. Oui, Seigneur, nous voulons t'offrir notre travail et nos vies, qu'il nous soit fait à nous aussi selon ta parole. Nous avons confiance en ton appel et en ta grâce. Amen.